Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci d'être avec nous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant sur le 98.5 FM, la radio du Sud Toulousain sur Radio Galaxy, et je suis actuellement en relation téléphonique avec Marie-Claude Villiers. Marie-Claude Villiers qui est à la Fondation des Apprentis d'Auteuil. Marie-Claude, bonjour.
Bonjour Bruno.
Marie-Claude, ça fait combien de temps que vous êtes à la Fondation des Apprentis d'Auteuil ?
Ça fait une trentaine d'années, j'ai débuté ma carrière en tant qu'enseignante dans le premier degré en tant que professeur des écoles et ensuite j'étais directrice de différents établissements.
La Fondation des Apprentis d'Auteuil est destinée en fait à prendre en charge des enfants et des jeunes qui sont dans une situation, on va dire, de précarité ou difficile sur le plan familial, c'est bien ça?
Voilà, et plus largement des jeunes qui peuvent rencontrer des difficultés scolaires. Donc c'est une fondation catholique reconnue d'utilité publique qui a 155 ans d'existence. Et qui prend en charge soit des jeunes, soit des familles, de la naissance à l'insertion professionnelle, donc pour des jeunes qui peuvent être fragiles, soit sur le plan social, soit sur le plan familial, soit sur le plan de la scolarité. Voilà, toutes les fragilités peuvent être prises en charge.
Depuis 30 ans que vous êtes à la Fondation d'Auteuil, bon, qui est une fondation nationale, hein ?
Oui, voilà, avec des antennes, des partenariats à l'étranger. Hein, donc il y a environ... un peu plus de 300 établissements sur toute la France. Et en région Occitanie, on est à 27 établissements dans le sud-ouest.
C'est-à-dire que vous avez des écoles, ce sont des internats, ce sont des centres de formation?
Alors en fait, on commence à prendre en charge les familles dès la petite enfance. Donc on peut avoir des crèches qui ont des horaires atypiques pour permettre aux parents d'accéder à l'insertion professionnelle. Ça peut être des maisons des familles qui vont travailler plutôt... sur la parentalité, l'accompagnement à la parentalité avec les mamans, les papas, sur le lien qu'ils peuvent établir à l'intérieur de leur famille. Et ensuite, nous avons deux volets, le volet scolaire, donc école, école maternelle, élémentaire, collège, avec les collèges avec des internats éducatifs, et puis des lycées professionnels, sur tout le territoire aussi. Et concernant la protection de l'enfance, ce sont des jeunes ou des enfants qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance. Et donc, ils sont placés dans des maisons d'enfants à caractère social. Il y en a aussi quelques-unes sur la région sud-ouest. Et puis, il y a un dernier volet qui vise à accompagner les personnes sur l'insertion professionnelle avec ces dernières années une augmentation de la prise en charge pour les 16-30 ans. Sur des dispositifs d'insertion professionnelle.
Ce sont les gens qui viennent faire appel à vos services. Bon, on a entendu qu'il y avait certains jeunes qui étaient placés, mais le reste du temps, comment ça se passe ? C'est les parents qui viennent vous voir ? C'est des recommandations qui vous sont faites ?
Oui, alors pour tout ce qui est scolarité, donc on peut être en lien avec le rectorat, on peut être en lien avec les personnes qui s'occupent de la scolarité, du décrochage scolaire, parce qu'en fait, c'est quand même notre cœur de métier, la prévention du décrochage. Des travailleurs sociaux, mais c'est forcément en accord avec les familles pour toute la scolarité, y compris pour les crèches à la maison des familles qui nécessitent une adhésion. Concernant les placements en maison d'enfants, on peut avoir différents types d'interventions, les services sociaux, ça peut être le juge des affaires familiales, ça peut être aussi les services de police judiciaire qui prennent en charge aussi des jeunes qui peuvent être en difficulté dans leur famille, qui sont en danger par exemple. L'adhésion de la famille est toujours recherchée, évidemment.
Évidemment. Les jeunes qui sont chez vous depuis 30 ans, vous parlez de décrochage scolaire, de jeunes qui sont en difficulté dans le système éducatif. Qu'est-ce qui, à votre avis, justifie, qu'est-ce qui provoque ce décrochage ?
Alors, les causes, elles sont multiples. Hein. Surtout qu'on a remarqué quand même depuis le confinement qu'on a une augmentation notoire du décrochage scolaire. La persévérance a été mise à mal. Les jeunes sont en difficulté de relation, ils se sont repliés. L'arrivée des médias et des réseaux sociaux est aussi très impactante sur la scolarité des jeunes, notamment dans leur façon de régler leurs relations affectives, même leurs relations affectives et sexuelles. Et puis, il y a aussi de la précarité, hein, qui est grandissante dans la plupart des départements en France et surtout en Outre-mer. Et donc, ça crée de l'incertitude, de l'insécurité. Et de ce fait, les enfants sont pas toujours très sereins pour apprendre. Et un accroissement important des familles monoparentales aussi. Voilà ce que j'observe quand même sur ces dernières années. Même si ces problèmes étaient déjà là, ils sont là depuis longtemps. Par contre, ils sont peut-être plus visibles. Et en tous les cas, une prise en charge ou un repérage qui est peut-être plus important aussi. Donc ça, c'est quand même un point positif qu'il faut souligner. C'est-à-dire que quand même, on est attentif, que ce soit à l'école publique, au niveau des services sociaux, à repérer les personnes et notamment les jeunes qui ont besoin d'un soutien.
Certains disent que les décrochages scolaires se font de plus en plus tôt. C'est quelque chose que vous observez aussi ?
Pas vraiment. En fait, l'école élémentaire a toujours su prendre en charge un élève qui avançait différemment. Le décrochage, effectivement, il arrive en sixième parce que le passage n'est pas simple. Le fait qu'il y ait un abaissement du niveau d'exigence et du niveau de persévérance des enfants, la prégnance des écrans dans les familles ne favorise pas l'acceptation des règles, du cadre. Ensuite, il arrive plus tôt parce qu'il est repéré plus tôt, moi je dirais. Mmh. Vraiment, les collèges publics font un repérage assez fin, assez systématique pour accompagner les élèves. Et lorsque la simple prise en charge appuyé d'un collège ordinaire ne suffit pas, que ce soit en public ou en privé, on peut se tourner vers un dispositif où, comme dans les collèges de la Fondation, un internat éducatif et scolaire, c'est-à-dire qu'il y a un travail éducatif, à ce moment-là, ça peut répondre aux besoins du jeune et de sa famille. Un éloignement peut être aussi, je ne dirais pas jusqu'à dire qu'il est thérapeutique, mais qui peut être utile au sein de la famille.
Ce qui veut donc dire que les enseignants qui officient chez vous sont des enseignants avec une certaine spécialité ?
En premier degré, il y a quelques enseignants spécialisés, donc effectivement qui sont formés. En collège, c'est beaucoup moins fréquent. Par contre, on a donc la crise de l'enseignement, elle existe aussi chez nous. Hein, donc les enseignants peinent à recruter. Et puis comme on est toujours à la recherche de gens, de personnes qui soit en accord avec notre projet éducatif, il faut trouver des personnes, les fidéliser, et c'est pas toujours simple. À l'heure actuelle, le marché du travail est très tendu, que ce soit au niveau des enseignants, des éducateurs, des maîtresses de maison. Le recrutement, en ce moment, on peine aussi à mettre une personne sur chaque poste, ça c'est évident.
Mais vous pensez là aussi que la Covid a fait des dégâts ?
Oui, indéniablement.
Si on parle maintenant des jeunes qui sont dans un cursus un peu plus avancé, ceux qui sont en fait une formation professionnelle ou une reconversion, quels sont les résultats que vous obtenez par rapport à ça ? C'est, y a beaucoup de débouchés pour les jeunes ? C'est vraiment une porte de sortie ? Ils sortent avec un métier, ils sortent avec un diplôme, ils sortent avec du travail ?
Au niveau de l'insertion professionnelle, on essaie vraiment d'être le plus agile possible, de se rapprocher des bassins d'emploi pour voir un petit peu quelle est la demande de salariés ou de main-d'œuvre ou de qualification. C'est vraiment un domaine où, oui, on essaie d'insérer le jeune sur le plan professionnel. Alors, certains obtiennent un diplôme, d'autres s'insèrent tout simplement dans la société en ayant un travail. On a aussi des conseillères d'insertion pour essayer de trouver un travail et puis permettre de passer le permis de conduire, accompagner la personne sur l'acquisition d'un logement. C'est tout un ensemble d'aides qu'on peut apporter pour les personnes qui sortent du système scolaire sans diplôme et sans qualification.
Et donc, à chaque fois, sur les établissements, comme vous le dites, c'est adapté sur le territoire en fonction du bassin d'emploi, ce qui veut donc dire que les jeunes qui sont pris en charge ici dans le Sud-Ouest n'ont pas forcément ou obligatoirement les mêmes propositions de formation que ceux qui seraient dans le Nord ou dans l'Est de la France.
Exactement. Par exemple, ici, on peut travailler avec les vignerons, dans les parties où il y a de la demande de main-d'œuvre. Ça peut être plus sur le côté, hôtellerie, lorsqu'on est sur la côte atlantique, voilà, il y a quand même des dispositifs qui se rapprochent du bassin d'emploi. Donc ce sont des dispositifs qui sont petits, qui sont agiles et qui vont accompagner les jeunes.
Vous êtes une fondation, donc, je répète, de façon catholique, comme vous dites tout à l'heure. Malgré tout, vous bénéficiez de subventions, j'imagine, de l'État pour répondre un petit peu aux attentes de ces jeunes et de ces familles en difficulté.
C'est une fondation qui est reconnue d'utilité publique. Donc, à ce titre, il y a des subventions, que ce soit pour la scolarité, pratiquement tous les établissements scolaires sont sous contrat avec l'État. Et puis après, l'aide sociale, effectivement, ça adresse régulièrement des jeunes dans des organismes, des milieux associatifs, soit les fondations, et donc les subventions pour prendre en charge le jeune par ce biais. Voilà, donc et on accueille tous les jeunes, quelle que soit leur confession. Il n'y a pas de discrimination, c'est un accueil inconditionnel.
Vous avez, j'imagine, au fil de l'an, des actualités un peu spécifiques, des moments forts qui ponctuent un peu votre année ?
Oui, alors chaque année, par exemple, au mois de novembre, il y a la soirée de la réussite, la journée de la réussite. Donc chaque établissement doit trouver le meilleur moyen pour ses bénéficiaires de féliciter, soit c'est un établissement qui délivre un diplôme. Donc ceux qui ont été diplômés en fin d'année reviennent pour une célébration commune. Ça peut être aussi chez les plus petits, la soirée de la réussite sur le talent que chacun a pu développer ou acquérir. Ça peut être au niveau d'un groupe, d'un label qui a pu arriver sur un établissement, un écolabel par exemple. On essaie de trouver soit au niveau des groupes, soit au niveau de chaque jeune, le moyen de le mettre en lumière et de lui faire prendre conscience qu'il a parcouru un chemin et qu'il faut qu'il puisse le regarder, relire un petit peu ce petit bout d'histoire.
Et vraiment voir qu'il a aussi des talents qu'il a su développer et mettre en avant. Si des auditeurs souhaiteraient avoir un peu plus d'informations sur la fondation des apprentis d'Auteuil, ils peuvent se tourner vers quoi, vers où ?
Alors, ils peuvent se retourner vers notre région, direction régionale à Toulouse et une direction régionale à Bordeaux. Et puis à Paris, il y a aussi un service d'accueil pour les familles, pour toutes les personnes, qu'elles soient en France ou en région parisienne. On peut appeler le siège de la Fondation avec un service accueil jeune.
Avec un service accueil jeune, j'imagine également que vous avez un site internet ou des choses comme ça où les gens peuvent avoir simplement quelques informations générales.
Donc le site, oui, c'est le site d'apprenti d'Auteuil. Apprenti au pluriel, plus loin, d'apostrophe Auteuil.
Alors, Marie-Claude Vier, je rappelle que vous êtes chargée de mission aux apprentis d'Auteuil sur la région sud-ouest et je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Si des auditeurs sont intéressés pour en savoir plus, pour participer éventuellement, et si des gens, peut-être, seraient intéressés pour rejoindre vos personnels éducatifs.
C'est un très beau projet.
Vous voyez, c'est un très beau projet d'accompagner tous ces jeunes qui sont en attente d'accompagnement. Prenez contact, allez voir sur le site Apprenti d'Auteuil, et puis prenez contact avec la région sud-ouest, par exemple.
Voilà, par exemple, tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci, Monsieur Verrier.
Et puis, bonne journée.
Merci.
Vous écoutez Radio Galaxie, votre radio locale, sur 98.5 FM.